Bonjour Toufik, bonjour à tous. Une semaine encore et la réforme ferroviaire sera bouclée. Commission mixte paritaire ce lundi avant l'aval du Parlement. Mais quid de la grève des cheminots ? Nous ferons le point avec Raphaël Ebenstein. Le point aussi sur les revendications des agriculteurs. Ils bloquent depuis hier soir des raffineries. La faute à l'huile de palme. On vous explique pourquoi. Dans cette édition encore, nous irons à Singapour à 24 heures d'un sommet qui s'annonce historique entre Donald Trump et Kim Jong-un. Les voisins de la Corée du Nord à Singapour en attendent beaucoup. Et puis quelle approche, rapprochement possible entre Moscou et Kiev ? Le président russe semble enclin à quelques compromis, vous l'entendrez, alors que s'ouvre aujourd'hui une réunion à ce sujet. C'est une semaine importante, voire capitale, qui s'ouvre donc pour la réforme ferroviaire du gouvernement. Une commission mixte paritaire, composée de 7 députés et 7 sénateurs, doit se mettre d'accord aujourd'hui sur une version commune du projet de loi, avant que le texte ne soit définitivement adopté après-demain à l'Assemblée, puis jeudi au Sénat. Et si le calendrier parlementaire touche à sa fin, la grève à la SNCF reste toujours d'actualité. Les précisions ce matin de Raphaël Ebenstein.
A priori, aucun suspense. La commission mixte paritaire devrait aboutir à un accord aujourd'hui sur une version du texte très proche de celle adoptée la semaine dernière au Sénat, qui inclut plusieurs amendements de l'UNSA et de la CFDT. Par exemple, l'extension d'un droit au retour au sein de la SNCF pendant 8 ans pour les cheminots transférés à la concurrence. Sinon, ce serait rallumer la mèche, confie un parlementaire. Mais même le maintien de ces amendements dans le projet de loi définitif ne suffira pas à contenter les syndicats réformistes, contrairement aux espoirs du gouvernement. La reprise de négociations sur la future convention collective du ferroviaire vendredi peut-elle être alors la porte de sortie du conflit ? Sur le papier peut-être, sauf que le ministère des Transports veut limiter le rôle de l'État à celui de simple observateur, là où les syndicats exigent une vraie pression de sa part sur le patronat. Bref, la grève, déjà plus longue que celle de 1995, pourrait encore durer. Plus personne ne semble capable, au fond, de prédire son arrêt.
La grève à laquelle s'ajoutera demain une journée de la colère cheminote à l'appel de tous les syndicats. Colère aussi des agriculteurs. Ils refusent de voir l'huile de palme entrer en France pour alimenter une bioraffinerie à Lamed, près de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. De l'huile de palme étrangère donc, plutôt que leur huile de colza. Ils bloquent depuis hier soir une douzaine de raffineries dans le pays, à Vatry, dans la Marne, Toulouse, Strasbourg, à Cournon, dans le Puy-de-Dôme ou encore à Lyon. La FNSEA et les jeunes agriculteurs sont mobilisés à Lyon, justement au dépôt du port Édouard Herriot. Dromois et Ardéchois dénoncent une distorsion de concurrence avec les producteurs étrangers. Florence Gautchot.
Le problème, c'est que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les producteurs français et leurs voisins ne sont pas soumis aux mêmes réglementations. Les Espagnols, les Italiens ont le droit, par exemple, d'utiliser certains produits phytosanitaires interdits en France. Olivier Fraisse est arboriculteur à Saint-Jean-de-Muzol, à côté de Tournon, en Ardèche. Il produit des cerises et des abricots.
On n'est plus dans la même cour, quoi. On ne joue pas dans la même cour. On comprend que de temps en temps, surtout s'ils sont dangereux, certains insecticides puissent être interdits. La seule chose qu'on demande, c'est de pouvoir être sur le même marché que certains autres pays, notamment de l'Union européenne, avec les mêmes conditions et avoir un temps d'adaptation. On ne peut pas du jour au lendemain, à la veille de la récolte, dire on n'a plus droit à ça, toc, on ne fait plus rien.
À cela s'ajoute le coût de la main-d'œuvre en France, plus élevé qu'en Espagne ou hors de l'Europe. Comment, dans ces conditions, rester compétitif ? Olivier Fraisse.
C'est très compliqué. Nous, on mise sur la qualité de nos fruits, justement, pour être pas sur le même marché que l'Espagne ou l'Italie. Et se différencier par un produit français de qualité pour nos consommateurs.
Autre difficulté, les aléas climatiques. Avec le gel de février, Olivier Fraisse estime qu'il a perdu 70% de sa production d'abricots.
L'horizon économique de la France continue de s'éclaircir. L'année dernière, les investissements étrangers ont bondi pour la France de plus de 30%. C'est ce qu'indique le baromètre EY publié ce matin. Le numérique est l'un des principaux moteurs de cette dynamique, mais l'industrie l'est aussi. Un quart des projets étudiés viennent du Royaume-Uni et d'ailleurs pour la première fois, Paris est jugé plus attractif que Londres. Nous y reviendrons longuement à 7h12 dans le billet économique de Jean-Marc Chardon. Avant cela, la suite du journal à 6h34 et Donald Trump qui poursuit ses attaques contre les Européens et le Canada depuis Singapour. 5 tweets en à peine 2 heures cette nuit. Il fustige les contre-mesures commerciales prises par le Premier ministre canadien Justin Trudeau et il menace les Européens. Donald Trump prévient ainsi « Les États-Unis payent la quasi-totalité du coût de l'OTAN. On protège l'Europe, ce qui est bien, pour un coût financier élevé et après on se fait matraquer injustement sur le commerce. Cela va changer. Fin de citation. Des tweets de Donald Trump que la chancelière allemande Angela Merkel juge déprimants. Donald Trump à Singapour donc en ce moment pour une rencontre, une photo surtout très attendue avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un. Elle aura lieu la nuit prochaine. Les deux dirigeants sont arrivés sur l'État insulaire hier et ils résident pour le moment dans deux hôtels différents à 10 minutes à pied l'un de l'autre. Présentation de notre envoyé spécial Grégory Phillips.
Devant le Shangri-La Hotel où séjourne le président américain depuis hier, beaucoup de policiers et quelques badauds qui tentent d'apercevoir quelque chose. Mais le lieu qui attire le plus les curieux est à 10 minutes à pied, l'hôtel Saint-Régis, où se trouvent Kim Jong-un et sa délégation. Monsieur Lai habite le quartier, il est très heureux que le sommet ait lieu à Singapour. Oui, j'en suis fier, ça prouve que Singapour est une ville très sûre qui sait gérer ce type d'événement. Est-ce que vous avez vu Kim Jong-un ce matin? Non, mais j'attends, peut-être qu'il va sortir pour le petit déjeuner. Vous savez, tout le monde ici ne parle que de ça, mais dans deux jours, on parlera plus de la Coupe du Monde de football. Il y a France-Australie samedi. Devant le même hôtel Saint-Régis, M. Chin, 73 ans, Coréen du Sud, qui lui dit attendre beaucoup de ce sommet. J'espère vraiment que ce sera une bonne réunion. Vous savez, je suis né en 1945, j'ai toujours connu les deux Corées divisées. J'espère que les deux dirigeants iront dans la bonne direction. Un peu plus au sud, enfin, l'île de Sentosa, où le sommet aura lieu demain. À l'entrée de l'île, il y a un parc d'attractions. Puis un peu plus loin, des gardes de sécurité autour de l'hôtel Capella, qui abritera la rencontre inédite entre un dirigeant nord-coréen et un président américain.
Grégory Phillips depuis Singapour ce matin. L'Aquarius cherche désespérément un port. Avec près de 600 migrants à son bord, le navire de l'ONG SOS Méditerranée n'a pas le droit d'amarrer. Refus de Malte par communiqué hier soir. Refus aussi du gouvernement italien qui un peu plus tôt avait accueilli déjà près de 500 migrants ce week-end en Italie donc. Le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini interdit aux navires humanitaires d'accoster dans un port italien. Une barrière de plus, regrette SOS Méditerranée, qui rappelle que son objectif n'est autre que celui de sauver des vies en mer. 2,5 milliards de dollars pour la Jordanie. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït lui accordent une aide financière à la lumière, je cite, des liens fraternels étroits. La Jordanie, engagée auprès du FMI à mener des réformes structurelles, traverse une crise économique et sociale sans précédent depuis quelques semaines. Et puis en bref, encore des bulletins de vote brûlés en Irak. Le pays s'apprête à recompter les voix des élections législatives du mois dernier. Un scrutin qui avait été marqué par des soupçons de fraude. Mais un incendie a ravagé hier le dépôt où étaient stockés des bulletins de vote du secteur est de Bagdad. Selon le responsable de la commission électorale, le nouveau décompte des voix n'est pas compromis. Mais le camp de l'imam chiite radical Moqtada Sadr, vainqueur des élections, crie déjà à la manipulation. Une sortie de crise en Ukraine est-elle envisageable? Plus d'un an après leur dernière rencontre, les ministres des Affaires étrangères ukrainiens, russes, français et allemands se retrouvent aujourd'hui à Berlin et ils vont tenter donc de trouver une sortie de crise à ce conflit ukrainien. Emmanuel Chaz.
Au programme des échanges aujourd'hui, la reprise des négociations en vue de l'application des accords de Minsk signés en 2015 et la question du déploiement en Ukraine d'une mission de l'ONU pour le maintien de la paix. Pour l'instant, le conflit ukrainien est dans une impasse. Dans la région du Donbass, à l'est du pays, le cessez-le-feu décidé à Minsk n'a été respecté ni par les séparatistes soutenus par Moscou, ni par les partisans du gouvernement pro-européen du président Petro Porochenko à Kiev. Ce week-end, au sommet du G7, Emmanuel Macron a prévenu, Vladimir Poutine ne sera le bienvenu au prochain sommet qui aura lieu en France que si les accords de Minsk sont respectés. Le président russe semble quant à lui prêt à certains compromis vis-à-vis de Kiev. Il est notamment question d'un échange de prisonniers russes et ukrainiens. Mais la diplomatie fragile entre Moscou et Kiev est aussi mise à l'épreuve pour des raisons économiques. Du côté ukrainien, on s'inquiète de la construction d'un gazoduc en mer Baltique reliant la Russie à l'Union européenne. Ce projet est vu comme une tentative de Moscou d'embargo économique sur l'une de ses principales sources de revenus. Angela Merkel a cependant assuré que le projet Nord Stream 2 ne sera mené à terme que si l'Ukraine continue à être une zone de transit du gaz russe vers l'Europe. Autant de questions sur lesquelles les ministres réunis aujourd'hui devront tenter de s'accorder. Alors que la guerre civile est entrée dans sa quatrième année et a déjà fait plus de 10 000 morts, Heiko Maas, le ministre des Affaires étrangères allemand, a promis que le pays ne serait pas abandonné par les forces occidentales.
Emmanuel Chaz à Berlin pour France Culture. Le retour des orages en ce début de semaine et de la pluie. 22 départements sont en vigilance orange aux orages ce matin, de l'Aisne jusqu'à l'Indre en passant par l'Ille-et-Vilaine et l'Île-de-France. De part et d'autre de cette bande orageuse, des averses vont balayer le pays. Et côté température, il y a peu de changements. Comptez ce matin 17 degrés à Brest, 18 à Bordeaux, 20 à Paris et Lille, 22 à Lyon, 24 à Strasbourg et à Marseille.